Madame l'administrateur, mesdames, messieurs, chers collègues, je vais juste vous essayer de vous replacer un peu la création de l'IUF dans le cadre de la politique que nous avons menée pour simplement situer les choses et montrer quelle est la place de l'IUF. À cette époque, j'étais conseiller spécial de Lionel Jospin et je m'occupais de l'enseignement supérieur. La première démarche qu'il faut souligner, c'est que nous nous sommes entourés pour mener cette politique d'une équipe. Et sans cette équipe, rien n'aurait été fait. Je fais une petite parenthèse. Cette notion que sans une équipe, dans un système de gouvernement, quel qu'il soit, on ne peut rien faire, reste une idée incomprise très largement par des responsables politiques et parfois au plus haut niveau. Et donc, le choix des gens avec qui on travaille est quelque chose d'important. Donc, auprès de moi, il y avait Daniel Bancel et Jogois, mais il y avait surtout deux structures qui ont joué un rôle très important. Il y avait d'abord les directions de ministères concernant l'enseignement supérieur. Il y avait une direction du développement universitaire qui a développé ce qu'on a appelé Université 2000. Il y avait la direction de la recherche et des études doctorales qui était dirigée par Vincent Contillot. La première était dirigée par Armand Frémont. Il y avait un artiste de la gestion du personnel qui s'appelle Jean Gazol et qui nous permettait de passer à travers les filets du statut de la fonction publique qui, comme vous le savez, est fait d'une série d'interdictions. Et puis, il y avait le directeur de l'enseignement supérieur qui était Franck Métraz. Ça, c'était la direction. Et chacun, et notamment Vincent Courtillot, était entouré d'une série de conseillers dont je dis très calmement, j'y suis pour rien, la qualité n'a jamais été égalée dans les gouvernements qui ont suivi. Et pour donner simplement un indice, parmi ces conseillers, 5 ont ensuite été élus à l'Académie des sciences. Et puis, il y avait un conseil scientifique. Ce conseil scientifique était présidé par Jean-Marie Laine. Et ce conseil scientifique fonctionnait de la manière suivante. On lui soumettait toutes les propositions que nous voulions faire, tous les projets que nous avions. Et là-dessus, il donnait un avis. Et on s'était bien entendu avec Jean-Marie, on n'était pas obligé de suivre l'avis, mais il fallait dire clairement, on n'a pas suivi l'avis ou on a suivi l'avis. Donc la séance d'après, le comité étudiait pour voir si ces recommandations avaient été suivies ou pas. Et on a suivi beaucoup d'idées, et certaines on ne les a pas suivies, pour des raisons souvent toutes simples, c'est que c'était infaisable. Parce que faire de la réforme dans ce pays, c'est pire que le steeplechase d'Auteuil. Il faut bien comprendre ce mouvement. On avait envie de changer les choses. Pour ceux qui l'ont oublié, il faut savoir que l'année 1988, lorsque nous sommes arrivés au gouvernement, la France était confrontée à une poussée d'étudiants depuis 2 ans extrêmement importante qui avait valu, comme vous le savez, des incidents très graves en 1986 et il y avait une poussée démographique énorme. Et par conséquent, il fallait créer des postes et il fallait créer des lieux pour accueillir les étudiants. Et François Mitterrand, dans son programme de 88, avait mis l'enseignement comme l'une de ses grande priorité. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que dans le monde politique, et en particulier dans le monde politique de gauche, l'enseignement supérieur est la dernière des priorités. La première des priorités, c'est le primaire, et le secondaire à la rigueur, et le supérieur, ça passe après. Alors, je vais vous prendre une analogie dans mon métier. Vous savez que l'eau tombe sur les flancs des montagnes et descend, et naturellement, elle érode, et plus c'est haut, plus l'énergie cinétique est forte, plus elle érode. Eh bien, néanmoins, l'érosion est remontante. Elle part du bas des bas des pentes et elle remonte. Eh bien, c'est la même chose dans l'enseignement, à mon avis. C'est en réformant l'enseignement supérieur, en formant des enseignants d'une bonne manière, en leur donnant un bon esprit, qu'on peut réformer l'enseignement primaire et secondaire. Et ça, ça a été... Il faut rendre grâce à Lionel Jospin, qui est probablement le seul responsable politique à avoir compris cela jusqu'à ces dernières années, mais c'est un autre sujet. Donc il fallait créer des choses. Et nous avons donc lancé ce plan Université 2000, qui était en lui-même, qui a été en lui-même une réussite extraordinaire, puisque, comme vous le savez, l'enseignement supérieur ne figurait pas dans les contrats de plan État-région. Et quand nous avions besoin d'argent pour construire des universités, et l'argent qu'on nous donnait n'était pas suffisant. Donc je me suis mis dans l'idée de solliciter les régions. Tout le monde pensait que c'était impossible, à commencer par le Premier ministre, qui pensait que c'était une idée complètement farfelue. Mais, en fait, les régions se sont lancées d'une manière enthousiaste dans cette affaire, et ça a donné le plan Université 2000, dont je vous donne un chiffre quand même. Grâce à la participation des régions, des départements et des communes, nous avons dépensé 40 milliards d'euros pour rénover des universités. Malheureusement, comme vous le savez, le maire de Paris, président du Conseil général de la Seine, a refusé catégoriquement de rentrer dans le plan Université 2000, ce qui fait que les universités de province ont bénéficié d'une rénovation, mais pas les universités parisiennes. Et comme les journalistes se déplacent difficilement hors de Paris, vous avez eu l'impression que l'université française tombait en ruine, ce qui était une caractéristique typiquement parisienne. Donc nous avions lancé cette affaire, nous avons créé des postes, mais moi j'étais hanté par une idée. Comment ne pas sacrifier tout au quantitatif et permettre que le qualitatif continue à être le moteur de l'université et que l'université joue pleinement son rôle, c'est-à-dire de créer le savoir et de le transmettre, et non pas seulement d'être un super lycée qui transmettait les connaissances créées ailleurs. Comment mettre l'accent sur la qualité ? Alors, la première des choses, bien sûr, a été la création de la DRED, qui dirigeait Vincent Courtillot, qui a joué, je crois, un rôle très important sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Mais nous avons pris trois initiatives. Toutes les trois, je ne dis pas ça pour nous faire mousser, à demander des heures de négociations épouvantables. La première, ça a été la prime d'encadrement doctoral et de recherche. C'est la seule revendication qui a été faite depuis 30 ans dans l'enseignement supérieur. Et j'avais demandé, je vous expliquerai dans quelles circonstances, qu'on continue avec ce présent gouvernement, et ça n'a pas été fait. On l'a obtenu avec une bataille homérique, car les conseillers du Premier ministre et en particulier Antoine Pro, étaient opposés catégoriquement au fait qu'on revalorise les enseignants du supérieur sur la base de leurs recherches. C'est pour ça que, après des batailles en réunion interministérielle, on a fini par appeler sa prime d'encadrement doctoral et de recherche. C'était la seule manière de faire plier les gens de Matignon. Et Michel Rocard ne nous a pas aidés. Donc, la seconde négociation a été avec les syndicats. Comment l'attribuer ? Je considère comme un de mes grands succès d'avoir obtenu cette chose, je continue à trouver ça impensable, à faire signer les syndicats que la prime d'encadrement doctoral et de recherche serait attribuée par des jurys nommés et non pas par des élections avec représentation syndicale. Et je dis bien, ça n'a pas été imposé. Les syndicats ont signé la mise en place. Alors, bien sûr, chaque année, il y a une bataille homérique avec le budget qui cherchait à réduire les sommes, les montants, le nombre, les affaires. Mais ça fait partie du jeu habituel dans le gouvernement. La deuxième chose a été le doublement des bourses de thèse. Les bourses de thèse étaient gérées par Hubert Curien, qui était ministre de la Recherche, mais le doublement n'a pas été fait par le budget de la Recherche. C'est l'Éducation nationale qui a mis l'équivalent de ce que mettait la Recherche. Et en même temps, la création du monitorat. Et à cette époque, quand nous sommes partis, les thésards qui étaient thésards et moniteurs avaient la location pour faire des thèses qui était la meilleure d'Europe de très loin et équivalente aux bourses des étudiants américains. Et puis la troisième, ça a été l'IUF. Quelle était l'idée de l'IUF ? La première idée, c'était de maintenir l'excellence et de donner une prime à l'excellence en recherche. Et en particulier, d'éviter la migration qui, à cette époque, était catastrophique, des meilleurs éléments de province vers Paris. Alors, aujourd'hui, ce problème est résolu parce que les loyers parisiens ont résolu le problème. Mais, à l'époque, c'était une migration catastrophique, et c'est pourquoi, quand nous avons créé l'IUF, nous avons mis un quota pour les universités parisiennes, et nous avons mis également la condition que si on quittait son université, on perdait son appartenance à l'IUF et il fallait repasser dans la moulinette. Ça, c'était la première des choses. Il fallait aussi avoir, ça c'est des conceptions personnelles, je pense que dans la recherche, il y a deux choses importantes. Je vais en choquer peut-être certains, mais j'assume. Il y a les équipes d'excellence, qui sont des seniors d'excellence. Et puis, il y a les jeunes, à qui il faut donner une grande chance. Les jeunes équipes, il faut leur donner une grande chance, sachant qu'il y en aura une sur trois qui va déboucher. Entre les deux, il y en a beaucoup qui font de la recherche, qui feraient mieux de ne pas en faire. Ça améliorerait beaucoup les choses. Ça encombre les journaux sans aucune nécessité. Donc, l'idée, c'était de centrer sur les jeunes équipes largement et sur les équipes d'excellence. Et à l'époque, on avait pris des critères qui étaient, on donnait un certain nombre de choses qui étaient bien. D'abord, premièrement, c'était fait par un jury qui est un jury à moitié international. Ensuite, on donnait aux lauréats une réduction, ils avaient à faire un tiers des cours habituellement. Mais on donnait aux universités, j'insiste là-dessus, un poste de remplacement. C'était une manière de différencier les universités qui investissaient dans la recherche par rapport aux autres. Alors naturellement, cette méthode, qui était une méthode pour reconnaître l'investissement universitaire, a été supprimé d'un trait de plume par François Bayrou quand il nous a succédé. Ensuite, il y avait une somme d'argent pour les gens qui étaient à l'IUF. Cette dotation, naturellement, elle n'a pas bougé. Par conséquent, elle est devenue de plus en plus basse. Et puis enfin, il y avait l'attribution d'une bourse doctorale à chaque membre de l'IUF. Autrement dit, il était assuré d'avoir une thèse. Ceci pour dire des choses simples. Si les gens étaient bons et étaient sélectionnés à l'IUF, il valait mieux leur confier les étudiants pour faire des thèses plutôt que de les disperser à des gens qui étaient pas forcément reconnus. Donc, voilà comment s'est fait l'IUF. Vincent vous racontera mieux que moi les péripéties, les difficultés, etc. En écrivant ce texte, en draftant ce texte, vous serez surpris et vous pourriez me poser la question, mais qu'est-ce que vous avez fait pour l'IUF quand vous avez été ministre ? Vous avez fait plein de choses quand vous étiez conseiller spécial, mais quand vous étiez ministre, finalement, vous n'avez pas fait grand-chose. C'est vrai. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une première raison. La raison première, c'est que, autant dans la première période, on était avec une augmentation budgétaire importante, dans la deuxième période, j'ai pas eu un sou. Il y a beaucoup de gens qui vous font des compliments sur les ministres qui ont permis de la France de rentrer dans l'euro. Les deux ministres qui ont permis à la France de rentrer dans l'euro, c'est le ministre de la Défense et votre serviteur, qui se sont serrés la ceinture parce que c'était les deux plus gros budgets. Donc on n'avait pas de sous. Et ça ne m'a même pas permis de rétablir cette dotation en poste qui était faite automatiquement parce que je n'en avais pas les moyens. Et naturellement, dans cette société égalitaire, l'idée de dire on va le faire pour quelques-uns et pas pour tous était impensable. Donc, premièrement, il n'y avait pas d'argent. Deuxièmement, j'ai été occupé par trois projets importants. La première a été de continuer Université 2000, mais cette fois avec une priorité parisienne. Une priorité parisienne qui ne s'est pas concrétisée comme je l'aurais voulu pour une raison toute simple. C'est qu'il y a eu cette absurdité du désamiantage de Jussieu, dont il faut que vous soyez conscient que non seulement ça a augmenté la densité d'amiante aux environs de Jussieu, mais ça a coûté d'ores et déjà 1,5 milliard d'euros et ça coûtera probablement 3 milliards d'euros. Donc on a relancé U3M avec un succès modéré. La deuxième chose, ça a été la loi sur l'innovation. Ça, je crois que ça a été un grand succès, puisque comme vous le savez, quand nous sommes arrivés, un professeur d'université ne pouvait pas travailler avec le privé. Et nous avons créé des pépinières d'entreprises, les concours d'entreprises innovantes, etc. Donc là, c'était une ouverture. Et puis, il y a eu l'harmonisation européenne des diplômes, ce qu'on appelle maintenant le LMD, qui a eu, je crois, une initiative française et qui a eu une résonance énorme, non seulement dans la remise en forme des diplômes en France, mais dans toute l'Europe. Donc on a été occupé. Puis, bien sûr, comme vous le savez, j'avais été présomptueux en pensant que je pouvais réformer l'enseignement secondaire. Et ça m'a coûté des manifestations et finalement mon poste. Les questions sur lesquelles nous avons probablement fait des erreurs, c'est d'abord de supprimer la DRED. Je pense que l'IUF, l'idée que nous avons eue de fusionner l'ensemble des affaires a été mauvaise, car au moment de la DRED était une respiration qui était importante puisque au total le budget opérationnel de la DRED correspondait à celui du CNRS. Et puis nous nous sommes attaqués au serpent de mer, qui était la réforme du CNRS. Malheureusement, nous l'avons confié à quelqu'un qui était incapable de le faire. Et donc, ça nous a provoqué des difficultés considérables dans ce qui devait être un rapprochement. Le résultat, c'est l'étouffement du CNRS que vous connaissez aujourd'hui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste de tout cela ? Il reste des choses, vous, et il reste des choses à revendiquer, sûrement. En 2007, le président de la République m'a demandé de redevenir ministre. C'était difficile pour moi, pour des raisons que vous comprendrez, parce que ça représentait une rupture idéologique quand même assez importante. Mais il m'a envoyé voir le ministre pour lui demander ce qu'il avait à faire. Et je lui ai fait deux recommandations. La première, c'est de doubler le montant des primes d'encadrement doctoral et de recherche et d'en doubler le nombre. Et j'avais fait les calculs. C'était une faribole sur le plan budgétaire, parce que la grosse différence, c'est que 50 000 professeurs d'université, ce n'est pas la même chose que de revaloriser les instituteurs. Donc, quand les batailles avec Bercy, c'est quand même plus facile. Et puis, la deuxième chose, je lui ai dit de rétablir les postes IUF pour faire de la différenciation dans les universités. Vous savez le résultat, on m'a écouté gentiment, mais rien n'a été fait dans ce sens-là. Donc, voilà. Est-ce que j'ai eu tort, est-ce que j'ai eu raison de rester sur ma colline ? J'en sais rien. Mais en tous les cas, je crois qu'il faut continuer à revendiquer quelque chose pour l'IUF dans le même esprit, parce que je crois qu'elle a joué un rôle, pas tout seul, hein, dans le fait que le paysage, quand je regarde extérieurement, le paysage universitaire français, je trouve que non seulement il s'est amélioré, mais d'autre part, la différence entre Paris et province a disparu. Et on l'avait déjà vu quand on avait commencé à faire les premières évaluations comparées des universités, dans lesquelles les universités qui étaient, avec les critères que Vincent Courtillot avait définis, étaient en tête, étaient des universités de province et pas les universités parisiennes. Donc, je crois que cette initiative était bonne. Et donc, tout ce que je vous souhaite, c'est que de ne pas lâcher le morceau et de réclamer qu'on revienne à un certain nombre de choses d'origine, c'est-à-dire que les nominations à l'IUF soient compensées par des postes, qu'il y ait une dotation pour les professeurs de l'IUF qui ne passent pas leur temps à écrire des proposals à 12 organisations avec des évaluateurs qui sont des scientifiques de troisième zone, et qui permettent de redonner ce tissu universitaire français le dynamisme qu'il mérite. Je pense que l'université française, sur laquelle on tape régulièrement, elle a accueilli en 30 ans 4 fois plus d'étudiants. Et ceci sans une augmentation de moyens considérable. Et ces 4 fois plus d'étudiants, elle a élevé son niveau. Si je compare le niveau dans ma discipline d'enseignement aujourd'hui à celui que je subissais quand j'étais étudiant, ça n'a rien à voir. Et la preuve en est, hélas, c'est que nos meilleurs éléments, eh bien, l'étranger se les dispute. Et ça, il y a 30 ans, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de Français qui partaient à l'étranger parce qu'ils n'étaient pas assez bons. Donc, je crois que vous avez des raisons, collégialement, d'être fiers de cette université et je souhaite que vous continuiez à la défendre. Merci.